L'or du Mongolia, une aventure du baron Stromboli par José Moselli. Introduction. Le baron Stromboli existe, à quoi bon le dire? Qui n'a entendu parler de lui? Ses aventures, ses exploits, au cours desquels il a berné toutes les polices du monde, sont dans toutes les mémoires. Cependant, rares sont les privilégiés qui ont pu approcher ce gentilhomme. Pour moi, ce fut à bord d'un paquebot entre Marseille et Alexandrie que j'eus la bonne fortune d'être présenté au baron. Mince et élancé, un monocle à son œil noir, la moustache frisée sur de lèvres rouges et souriantes, le baron me fit, comme à tous nos compagnons de voyage, une impression inoubliable. Il voyageait alors sous le nom de Carlo Alberto. Grâce à lui, la traversée nous sembla invraisemblablement courte. Causeur, aussi savant que spirituel, sachant se taire à propos et perdre jeu avec bonne grâce, le pseudo Carlo Alberto sut plaire aux hommes et se faire agréer des femmes. Dans les détroits de Messine, la tempête assaillit notre paquebot. Une vague malencontreuse enleva, au plus fort de l'ouragan, un malheureux émigrant. Le baron n'hésita pas à plonger à son secours, bien que le vent violent, la mer en furie et la nuit proche rendissent cette tentative plus que périlleuse. Nageur extraordinaire, le baron Stromboli sauva son homme. Remonté à bord, il nous charmait une heure plus tard en nous chantant d'une voix chaude et prenante une langoureuse romance de sa composition. Dans la soirée, nous apprîmes qu'il avait apporté 500 francs à l'émigrant sauvé par lui, aussi généreux que brave. À Marseille, le baron débarqua, emportant avec lui l'admiration et l'amitié de tous ses compagnons de voyage. Il emportait en même temps la valise de M. Constantin Mavrakopoulos, d'Athènes, contenant près d'un million de francs en titres excellents et facilement négociables. Je dois ajouter que 8 jours plus tard, M. Mavrakopoulos recevait sa valise, soigneusement empaquetée, accompagnée d'un mot fort aimable, signé Baron César et Stromboli, lui donnant l'adresse de la Banque de Londres, où ses titres avaient été vendus. Depuis, j'ai eu, dans différentes circonstances, le plaisir, toujours nouveau, de revoir le baron César. Ce galant homme voulut bien m'accorder sa confiance. Il ne me cacha pas que, comme Panurge, il avait 32 manières, et quelques autres, de se procurer de l'argent. Mais, affirma-t-il, c'est toujours avec élégance. L'or du Mongolia. Entouré d'une dizaine de personnages, mine grave et soupçonneuse, M. Morvert, ingénieur principal de la compagnie PLM, leur donnait des explications techniques. La scène se passait sur une des voies de garage proche de la gare de Lyon, devant un wagon de tôle fraîchement peint. Il y avait là, en plus de l'ingénieur, M. Savard, chef de la sûreté parisienne, un attaché du ministre de l'Intérieur, plusieurs inspecteurs de police et quelques inévitables journalistes. Plus loin, un cordon d'hommes d'équipe veillait à ce que personne n'approchât. Ce wagon, tout reluisant, était tout simplement le véhicule sur lequel, à Marseille, près de 4000 kilos d'or avaient été chargés et qui était arrivé vide à Paris. « Oui, messieurs, » conclut l'ingénieur, « pour moi, il m'apparaît impossible que ce wagon ait été ouvert en cours de route. Il était placé à l'avant du train de poste de 8h10 du soir, à côté du fourgon à bagages et sous la surveillance directe du chef de train. Or, vous le savez, cet employé, qui compte 20 ans de service dans notre compagnie et a plusieurs actes de probité à son actif, ne peut être soupçonné. De plus, sa vigilance nous est bien connue. Or, il a affirmé n'avoir rien aperçu de suspect. Nous devons le croire. » Le chef de la sûreté hocha la tête d'un air incrédule. « Tout cela est bel et bien, monsieur l'ingénieur, mais c'est de la théorie. Il n'en est pas moins vrai que 4000 kilos d'or ne disparaissent pas sans laisser de traces. » Si invraisemblable que cela parut, M. Savard disait vrai. Le paquebot anglais Mongolia, arrivé l'avant-veille à Marseille, avait débarqué 4000 kilos d'or en barre provenant des mines de Kalgoorlie, en Australie, et destiné à la Banque de France. Cet or, enfermé en 80 caisses de bois cerclées de fer et cachetées à la cire, avait été soigneusement vérifié par les employés de la Banque de France venu sur lequel recevoir, puis sous bonne escorte, transporté à la gare et enfermé dans un wagon plombé et solidement verrouillé. Toute la journée, un peloton de hussards réquisitionnés à cet effet, avaient monté la garde autour du précieux dépôt. Et à 7h30, quelques minutes avant le départ du train, le wagon avait été accroché au convoi. Depuis, aucun incident, rien. Seulement à l'arrivée à Paris, lorsqu'on avait ouvert le wagon, dont les scellés étaient intacts, on s'était aperçu qu'il était vide, complètement vide. Quel émoi parmi les employés de la Banque de France, venus pour prendre en livraison des lingots. Malgré les scellés, ils crurent un instant que c'était par erreur qu'on leur montrait ce wagon. Mais non, la feuille d'expédition était explicite. Le wagon 153-777 mentionnait-elle, et le wagon 153-777 était là, vide. Le chef de gare, affolé, téléphonait à la sûreté et faisait demander le chef de train parti chez lui se reposer. Le digne employé n'avait rien vu, rien entendu, il n'y comprenait rien. Furieux, le chef de gare le renvoyait, et sur ces entrefaites arrivait M. Savard, chef de la sûreté, accompagné d'un délégué du ministère de l'Intérieur et de plusieurs inspecteurs. « Voyons ce wagon !» grommelait le policier. Et avec une agilité que l'on n'aurait pas attendue de sa corpulence, il grimpait dans le wagon incriminé. C'était un wagon tout neuf, mis en service la semaine précédente. À peine un peu de poussière en recouvrait le plancher. Savard se baissa et flaira pour ainsi dire autour de lui. Aucune trace de violence, le wagon était bien intact. À la suite de Savard, deux inspecteurs y montèrent et en silence examinèrent les parois du véhicule. Sur le quai, l'ingénieur continuait à donner des explications aux journalistes. Ceux-ci, fort intéressés, prenaient des notes. Savard sauta sur le quai. « Incompréhensible, dit-il. » « Alors, aucun indice, monsieur Savard ?» questionna un journaliste en s'avançant vers le chef de la sûreté. « Rien, je n'ai rien à vous dire, » répondit le policier sèchement. Un homme d'équipe arrivait. « Le chef de gare de La Roche est au téléphone, il a une communication importante à faire. » Le premier soin de Savard avait été de faire télégraphier au chef de gare de toutes les stations auxquelles s'était arrêté le train. Il s'élança vers le bureau téléphonique et hurla. « Allô ? C'est moi, Savard, chef de la sûreté. »«
Le chef de gare La Roche ?
Oui ?
Eh bien, parlez. »«
Je ne sais rien de bien extraordinaire. Cependant, je dois vous dire que ce matin, lors du séjour du train 121 à La Roche, j'ai parfaitement remarqué que les ressorts du wagon 153-777, qui m'avaient été signalés comme contenant 4000 kilos d'or, n'étaient pas du tout tendus. Cela m'étonna. Ce wagon paraissait vide. » Je m'approchai et vis que les scellés étaient intacts. Je suppose alors que les ressorts, presque neufs, n'avaient encore eu le temps de s'assoupir et n'y pensaient plus.
Mais c'est très intéressant ce que vous me dites là. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal?
Rien. C'est bien, je vous remercie.
Le policier raccrochait le récepteur. D'après ce qu'il venait d'apprendre, il résultait que le vol avait été commis entre Marseille et La Roche. C'était déjà cela d'acquis. À pas lents, il rejoignit l'ingénieur de la compagnie à qui il communiqua ce qu'il venait d'apprendre. Cependant, les deux inspecteurs étaient descendus du wagon sans avoir rien trouvé, eux non plus. L'un d'eux, grand gaillard maigre et osseux, à la face rasée, s'approcha de Savard. «
Mais avis, chef, que le coup a dû être fait du côté de Marseille.
Et voici pourquoi. D'abord, la couche de poussière qui est sur le plancher du wagon est absolument unie. Je sais bien qu'on y a marché, mais personne n'a pu mettre le pied le long des parois où étaient rangées les caissettes d'or et c'est là que j'ai porté mes investigations. Ensuite, l'observation du chef de gare de La Roche me fait conclure dans le même sens. Le train est parti hier soir de Marseille et La Roche est la première station et la seule où il se soit arrêté après le lever du soleil. Dans la nuit, ni à Lyon, ni à Mâcon, ni à Dijon, personne n'a pu rien voir. Ce n'est pas tout. Pour moi, le wagon a été ouvert. Et les scellés remplacés. Comment, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, le travail inévitable, nécessité pour l'enlèvement des caissettes, a sûrement été fait au plus tôt. Les voleurs devaient avoir hâte d'en finir. Or, après Marseille, il y a un long tunnel, et ensuite le train passe à travers les solitudes désertes de la Camargue. Tout indique que le coup a été fait de ce côté. Si vous voulez bien m'autoriser, chef, je pars ce soir pour Marseille. L'inspecteur Loutre se tut, et de ses yeux gris au regard pointu, fixa son chef. Isidore Loutre était renommé et sa sagacité était proverbiale. Il ajouta « Et m'est avis que le baron Stromboli est pour quelque chose dans cette affaire. » Le chef de la sûreté réfléchissait.
savoir, dit-il enfin. En attendant l'outre, filez à Marseille et tâchez de réussir. Cette affaire est bien désagréable. Je vais avoir toute la presse sur le dos.
Savard terminait cette phrase qu'un gros homme, vêtu d'une redingote noire, orné d'une rosette de la Légion d'honneur, et coiffé d'un haut de forme impeccable, arrivait à grandes enjambées. Son visage gras et rose, encadré de favoris blancs, luisait de sueur. C'était M. Hugues d'Orbert, un dirigeant de la Banque de France. Il alla droit au chef de la Sûreté. « Eh bien, dit-il sans préambule, rien de nouveau, aucun indice ?»«
Rien, M. d'Orbert, avoua Savard, en se découvrant respectueusement, tandis que l'assistance limitait.
« Fantastique, extraordinaire, 12 millions. Ah, le voleur est un habile homme.
Oui, et ce ne sera pas facile de le pincer.
Oh, 12 millions ne se cachent pas comme une aiguille. 4 000 kilos d'or.
En tout cas, la Banque de France promet d'ores et déjà une prime de 500 000 francs à celui qui, par ses indications, aidera à pincer le voleur. »
Les journalistes, peu à peu, s'étaient approchés et ne perdaient rien de cet entretien.
Savard se tourna vers l'outre qui se tenait respectueusement à l'écart. « Vous entendez, l'outre ?
M. d'Orbert promet 500 000 francs à celui qui fera arrêter le voleur.
« M. d'Orbert, permettez-moi de vous présenter Isidore l'outre, un de mes plus fins limiers. »
L'outre s'inclina.
« Et vous n'avez aucune supposition, monsieur, sur le voleur ?» questionna le régent de la Banque de France.
« Si, mais bien vague. Il faut voir.
Je soupçonne fort le baron Stromboli d'être pour quelque chose là-dedans, mais ce n'est qu'un soupçon gratuit. »
M. d'Orbert ne répondit rien. À petits pas, il se dirigea vers le wagon ayant contenu les lingots.
« Je pars, chef, dit l'outre, j'ai juste le temps. »«
Mais oui, et bonne chance, hein ?»
L'outre serra la main que son chef lui tendait, et ayant assuré d'un geste précis le chapeau melon surmontant sa face en lame de couteau, fila à grands pas vers la sortie de la gare. Il est là un taxi auto.
« 566, boulevard de la Villette, et vite !» dit-il au chauffeur.
L'auto démarra et roula à toute vitesse vers l'adresse indiquée. Affalé sur les coussins de la voiture, l'outre réfléchissait. Ce n'était pas à la légère qu'il avait prononcé le nom du baron Stromboli. À son avis, seul le célèbre aventurier était capable de concevoir et de réussir un coup aussi extraordinaire. Il devait, certes, avoir pris ses précautions. L'enjeu en valait la peine. Pour lui, l'outre, c'était, en cas de réussite, la gloire et la fortune, 500 000 francs. De quoi se retirer du métier et ne plus travailler qu'en amateur, son rêve. Le policier se laissait ainsi aller à ses riantes pensées, lorsqu'un choc épouvantable le projeta violemment contre le cadre de la portière. Les carreaux volèrent en éclats en même temps que retentissait une clameur terrifiée. Froissé et confus, l'outre s'était redressé. Son chapeau melon avait heureusement amorti le choc de sa tête contre les parois de la voiture. L'outre regarda autour de lui. Son auto-taxi avait été abordé par une splendide limousine à la carrosserie sévère et cossue à la fois que conduisait son propriétaire, un élégant gentleman. Celui-ci avait arrêté sa voiture et sauté aussitôt à terre. Il aida l'autre à sortir de son taxi, dont la portière était faussée, et s'inquiéta si le policier n'était pas blessé.
« Non, merci, monsieur, je n'ai rien, heureusement. »
Le chauffeur du taxi était indemne lui aussi, mais il n'en était pas de même de sa voiture. L'une des roues avant du taxi auto, arrachée de son moyeu et brisée en 3 endroits, gisait sur le pavé. Autour des 2 voitures, la foule s'amassait peu à peu. L'accident avait lieu au coin du boulevard Voltaire et de la place de la République. L'auto de l'inconnu avait abordé par le flanc le taxi où se trouvait le policier. L'outre était pressé. Il tirait de sa poche son porte-monnaie et se disposait à régler la somme due à son chauffeur afin de prendre une autre voiture lorsqu'un agent arriva. Il fallut que le malheureux l'outre, qui trépignait d'impatience, déclinât ses noms et qualités afin de témoigner le cas échéant. L'inconnu en fit autant et très aimablement dit à l'outre « Je suis vraiment désolé, monsieur, de cet accident stupide. Vous me semblez pressé. Or, comme ma voiture est heureusement indemne, voulez-vous me faire le plaisir d'y monter? Je me ferai un devoir de vous conduire où vous désirerez. » Isidore l'outre n'aimait pas qu'on se mêle à de ses affaires.
« Je vous remercie, monsieur, » répondit-il sèchement.
Sans insister, l'inconnu remontait sur son siège et lentement démarrait. L'outre regarda sa voiture disparaître et monta dans le premier taxi qui se présenta. Il était furieux. Ce contretemps imbécile allait l'empêcher de dîner. C'est à peine s'il lui reste le temps d'aller chez lui afin d'y prendre les ustensiles
qu'il jugeait nécessaire à sa mission et de filer à la gare de Lyon pour y prendre le rapide. La voiture s'arrêta devant sa porte. L'autre sauta sur le trottoir, paya le chauffeur et d'un pas rapide s'engouffra dans le couloir et saisit la rampe de l'escalier pour monter plus vite. Mais la voix de sa concierge l'arrêta. « Hé, monsieur Loutre, il y a une lettre qu'on vient d'apporter pour vous à l'instant. C'est urgent, paraît-il. »
Agacé, Loutre rebroussa chemin et saisit la lettre que sa concierge lui tendait. D'un doigt nerveux, il fit éclater l'enveloppe et lui ses mots imprimés à la machine à écrire.
« Cher monsieur Loutre, ne perdez pas votre temps à courir après les voleurs d'or. Ils sont à l'abri de vos recherches et ils pourraient vous en cuire. Quant aux 500 000 francs que tout à l'heure vous promit votre chef, nous vous dédommagerons si vous êtes sage. »
« Et qui vous a porté cette lettre ?» demanda le policier à sa concierge une fois passé son premier mouvement de stupéfaction.
« Un monsieur très bien, voici un quart d'heure. Il est venu dans une belle automobile même, et il est parti aussitôt à toute vitesse sans même entendre ce que je lui répondais. »
Il ne fut pas difficile à Loutre, en quelques brèves interrogations, de se rendre compte que le porteur de la lettre et l'inconnu dont l'auto avait abordé son taxi n'étaient que le seul et même personnage. Cette constatation le rendit inquiet et le réjouit à la fois. Il courait au-devant d'un danger certain, en continuant son enquête, cela il en était sûr. Mais les menaces de la mystérieuse lettre lui prouvaient qu'on le craignait, donc que la piste suivie par lui était bonne. L'agent qui avait constaté l'accident avait pris le numéro de l'auto, avec cela, rien ne serait plus facile que de retrouver son propriétaire.
On verrait.
Pour le moment, il fallait partir. Loutre remercia sa concierge et bondit dans l'escalier. Il habitait seul un petit logement au 4e étage. En quelques secondes, il arriva et en ayant ouvert la porte, pénétra dans son bureau. Un désordre sans nom y régnait. Les tiroirs des meubles, sortis de leurs alvéoles et jetés sur le plancher, avaient répandu leur contenu autour d'eux. Tout avait été fouillé et jeté de tous côtés. Loutre, une minute, resta stupide, béant. Enfin, il se laissa tomber sur une chaise proche de sa table bureau et murmura « Nom de nom de nom de Dieu !» La nuit venait, Loutre se ressaisit. D'une boîte d'allumettes tirée de sa poche, il alluma une lampe à pétrole posée sur la cheminée et à sa lueur aperçut alors sur son bureau un de ces calendriers réclames où sont représentés des paysages coloriés. Loutre ne connaissait pas ce chromo. Machinalement, il le prit et l'approcha de ses yeux. Il comprit. Sur le morceau de carton, un volcan tout noir, au milieu de la mer ténébreuse, lançait, vers le ciel obscur, un énorme jet de flamme. Au-dessous de cette affreuse chose, ces mots s'étalaient en lettres d'or. Vu du Stromboli, volcan des îles Lipari.
« Chameau de Stromboli, c'est lui, je m'en doutais. J'en étais sûr. Ah, la canaille, mais je l'aurais, moi. »
Rageusement, Loutre déchira l'innocent carton, le lança avec force sur le plancher et l'aplatit d'un coup de talon.
« Ce voyou m'a tout volé, mes dossiers, mes enquêtes, tout !»
Le policier, pâle de rage, ouvrit la porte de sa chambre. Sur sa table de toilette, les flacons et les boîtes de fard avec lesquelles il se grimait gisaient, pêle-mêle, fracassés ou éventrés. Le blanc, le rouge, le noir fraternisaient ensemble, et plus loin, les perruques gisaient, lamentables filasses, dans un seau d'eau sale. Sur la table de nuit, il y avait une boîte. Loutre l'ouvrit. Elle contenait un rouleau de 1 000 francs en or. Sans doute, le cambrioleur mystérieux avait aussi voulu dédommager le policier. La pendule de plomb bronzée posée sur la cheminée sonna 7 heures. Dans 25 minutes, le rapide Marseille allait partir. Cette idée entra comme une vrille dans la tête du policier. Comme un fou, il sortit de son logement, claqua violemment la porte derrière lui et bondit dans l'escalier. Sur le boulevard, animé par la rentrée au logis de milliers de travailleurs, pas un taxi. Pire, pas le moindre fiacre. Enfin, une voiture minable passa. Loutre courut à sa rencontre.
« À la gare de Lyon » hurla-t-il au cocher. « Vite, il y a 100 sous de pourboire !»
Au trot de sa rosse éthique, le fiacre s'ébranla. Loutre, assis sur le bord du coussin, se trémoussait d'impatience. Enfin, la gare de Lyon fut en vue. La lumineuse horloge de son campanile luisait sur le ciel noir. Elle marquait 7h27.
Trop tard, trop tard.
Redevenu calme, Loutre paya le cocher et s'enquit du prochain train. Il partait 2 heures plus tard et arrivait à Marseille, le lendemain matin, à 9h30, tandis que celui qu'il venait de rater arrivait à 9h. Le policier ricana.
tout cela pour me faire perdre une demi-heure, ce n'était vraiment pas la peine. Et, tranquillement, il alla dîner au buffet de la gare. Ses émotions l'avaient creusé. Il mangea de grand appétit, mais à peine fut-il au dessert qu'il sentit une étrange torpeur s'emparer de lui. Il voulut crier, appeler, mais sa langue, devenue molle, n'obéit pas. Ses yeux se fermèrent et il perdit connaissance. Il fut réveillé par le garçon de l'établissement qui le secoua en disant « Eh, monsieur, voilà bientôt 2 heures que vous dormez !» L'outre, encore à demi endormi, poussa un grognement, se frotta les yeux et aperçut l'horloge. Il aperçut l'horloge et se dressa d'un mouvement brusque qui fit choir assiette, verre, bouteille et couvert épars sur la table qui était devant lui. 9h40, il était 9h40, le train était parti. Au bruit de la vaisselle cassée, le gérant et le garçon du buffet accouraient. L'outre s'expliqua, mais dut payer. Son dîner lui revenait exactement, case comprise, à 41,75 francs. Maintenant, il y avait encore un train à 11h, un express qui le mènerait à Marseille le lendemain soir. L'outre, en attendant, téléphona à la sûreté le récit de ses aventures et pria que l'on recherchât l'agent ayant dressé le procès-verbal de l'accident d'auto afin de mettre la main sur le propriétaire du véhicule, un complice du voleur sans doute. En tout cas, tout ceci prouvait que le filou, quel qu'il fût, avait entendu la conversation de la gare de Lyon entre l'outre et son chef et que la piste indiquée par le policier était la bonne. Content de lui, l'outre alla s'installer dans son train qui venait de se former et s'assit dans un compartiment de première, résolu à ne pas fermer l'œil. 2 hommes et une jeune femme vinrent se placer à ses côtés, et enfin retentit le coup de sifflet du chef de gare, et le train partit. Sans en avoir l'air, l'outre examina ses compagnons de voyage. Il ne vit rien de suspect. C'étaient de braves bourgeois. Ils descendirent à Dijon, après quoi le policier fut seul. Mais il n'en resta pas moins sur ses gardes, et ne dormit pas de la nuit. Enfin, le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, le train amenant l'outre stoppait sans incident en gare de Marseille. Le policier en descendit. Il joignit aussitôt le chef de gare, qui se promenait sur le quai, et se fit connaître de lui. Le chef de gare l'attendait depuis le matin et lui apprit que l'enquête à Marseille n'avait encore rien révélé, aucun fait nouveau. L'outre n'en fut pas étonné. Il prit congé de son interlocuteur, et après avoir absorbé en hâte un modeste repas, commença son enquête. Un à un, il interrogea tous les employés de la gare sans rien apprendre d'intéressant. À minuit, fourbu, il gagna un hôtel, y prit une chambre, se coucha et s'endormit. Le lendemain, dès l'aube, il fut sur pied et, mû par une idée fixe, retourna à la gare. Accompagné de 2 hommes d'équipe et monté sur une locomotive mise à sa disposition, il explora minutieusement la voie depuis Marseille jusqu'à Tarascon. Il ne découvrit pas le moindre indice. Aucune trace dans le tunnel de l'Anerte, aucune trace sur le ballast, en aucun point de la voie. Force fut à l'outre de s'avouer qu'il s'était trompé. Navré et furieux, il revint à Marseille, où il arriva pour dîner. Un télégramme, signé Savard, l'y attendait. L'auto qui vous tamponna était muni d'un faux numéro. On la recherche, mais introuvable. Enquête inutile à Marseille, revenez immédiatement. C'était bien l'avis de l'outre. Le lendemain matin, le policier arrivait à Paris et se rendait rue des Saussets. Il fut introduit auprès de Savard qui lui dit « Avez-vous quelque chose ?»« Non. Eh bien, il faut y renoncer. Je viens de recevoir de Genève une caisse contenant les débris des 80 caissettes qui renfermaient l'or du Mongolia. Elles sont dans la cour. Ce n'était pas à Marseille qu'il fallait chercher. Ah, les 500 000 francs de la Banque de France ne sont pas encore gagnés. » L'outre ne répondit rien. Cependant, la presse continue à s'occuper de ce qu'on appelait le mystère du wagon. Les enquêtes menées de front à Paris et à Marseille restaient vaines. L'arrivée à Paris des caissettes ayant contenu l'or de la banque, adressée facétieusement de Genève au chef de la sûreté, n'apprit rien de nouveau. Il fut impossible aux policiers de Genève de retrouver l'individu qui avait fait l'expédition du colis. Il semblait s'être volatilisé. Une seule chose restait certaine, la participation du baron Stromboli à l'affaire. Le chromo trouvé par Isidore Loutre sur sa table le démontrait surabondamment. Mais où rechercher le fameux baron? On le signalait partout et nulle part. Quant à Isidore Loutre, malgré son ressentiment contre le baron, c'est sans grande conviction qu'il continuait ses recherches, il ne se sentait pas de force. Le vol avait été commis dans la nuit du 28 au 29 mars. Le 10 avril, le journal L'Argus annonçait à grand renfort d'affiches, apposées sur les murs de Paris, la solution du mystère du wagon. Grâce à une somme énorme, L'Argus, qui dit tout, a réussi à se procurer le récit détaillé et complet de l'enlèvement des 4000 kg d'or dans un wagon plombé entre Paris et Marseille. Le vol audacieux stupéfiera tout le monde par la façon dont il a été exécuté, mais il a un côté comique, la naïveté de la police. Disons enfin que l'auteur de ce vol, dont nous publions le nom, n'a pas voulu profiter de la somme que nous lui offrions pour son récit. Il nous a prié de la transmettre à la compagnie PLM pour être versée à l'orphelinat des agents de cette compagnie. Disons-le, c'était la bagatelle de 100 000 francs dont ses déshérités vont devenir propriétaires. Quoi que l'on puisse penser du voleur, son geste mérite d'être loué. À demain, la solution du mystère du wagon. Cette affiche produisit une émotion énorme, et aussitôt son apparition, journalistes et policiers se ruèrent à l'hôtel de L'Argus afin d'essayer de percer le mystère. Mais le directeur resta muet. Souriant, il reçut tout le monde et se borna à dire « Lisez L'Argus demain matin, messieurs, 5 centimes le numéro !» Aussi, le lendemain, L'Argus fit prime. À 8 heures du matin, il était impossible d'en trouver un numéro. Le chef de la sûreté, l'inspecteur Loutre et le régent de la Banque de France ne furent pas, sans doute, les derniers à l'acheter. La première page de L'Argus était entièrement consacrée au mystère du wagon, et au milieu s'étalait, souriant et ironique, le portrait, était-il bien authentique, du baron Stromboli. Mais voici le contenu de cette étrange confession. L'enlèvement des 4000 kilos d'or contenus dans le wagon 153-777 constitue, à mon avis, une des plus brillantes opérations de ma carrière. Je dois le dire sans fausse modestie. Cependant, bien que ne recommençant jamais la même affaire, j'aurais cru inutile d'en faire connaître les détails au public s'il ne m'était revenu que certains individus peu scrupuleux, notamment messieurs Artem, Rupin et Rablaz, ne craignaient pas de s'attribuer le mérite de ce transfert. L'opération fut simple et avant de la relater, je demande pardon aux électeurs de les entretenir de mes petites affaires, mais je m'y vois obligé dans l'intérêt de mon récit. Vers la fin du mois de mars, me trouvant démuni d'argent et ayant de gros mémoires d'entrepreneur à solder pour l'entretien de plusieurs de mes palais ancestraux, je songeais à réaliser une bonne affaire. Dieu merci, ça m'est une joie de le déclarer, elle ne manque pas dans le noble pays de France. Mais il me fallait quelque chose d'immédiat et de fort lucratif à la fois. Là gisait la difficulté. Je lus donc dans les journaux avec patience et attention. Rien n'est plus instructif que de lire les journaux, et je n'eus pas de peine à découvrir la possibilité de plusieurs opérations assez bonnes. Aucune d'elles, d'ailleurs, ne présentait un grand avantage sur les autres. C'est pourquoi j'hésitais avant de me décider et continuer mes recherches. Soudain, une dépêche banale m'illumina. En dernière heure, le temps annonçait l'arrivée à Port Saïd du paquebot anglais Mongolia venant d'Australie et amenant à Marseille 12 millions de lingots d'or pour la Banque de France. Je reconnus que là était l'affaire recherchée. De Port Saïd à Marseille, il y a un peu plus de 4 jours de mer. C'était plus qu'il ne m'en fallait pour me préparer. Je pris aussitôt le train pour Marseille, où j'arrivais le lendemain. Loin de moi la pensée d'infliger à ceux qui me font l'honneur de me lire le récit des préparatifs de mon opération. Ils furent d'ailleurs simples et courts et consistèrent essentiellement à savoir quel serait le mécanicien, le chauffeur et le chef de train du convoi devant amener le précieux wagon à Paris. Sitôt ce renseignement en ma possession, je m'arrangeai, et cela me fut très facile, pour que des hommes à moi fussent chargés de la conduite de ce convoi. J'y réussis, sauf pour le chef de train. Je fis ensuite fabriquer dans mes ateliers des cachets semblables à ceux dont se sert la Banque de France et n'eus plus qu'à attendre l'arrivée du Mongolia. Je profitai de mes loisirs pour effectuer quelques menues opérations, de quoi payer mes frais généraux et emporter un bon souvenir de la belle cité phocéenne. Mais ce n'est pas la peine d'en parler. Le Mongolia arriva, débarqua son précieux chargement et celui-ci fut enfermé dans le wagon 153-777. Ce fut fait très soigneusement, je dois le dire. Les scellés furent apposés, le wagon strictement surveillé. Aucune négligence. Je puis en témoigner, car j'assistais à toutes ces opérations. Le train partit à l'heure exacte. J'étais dedans, avec quelques-uns de mes hommes, cachés dans de grandes malles contenues dans le fourgon à bagages, voisin lui-même du wagon en question. Ce fut entre Valence et Lyon qu'eut lieu notre opération, vers minuit. Le chef de train n'y vit que du feu, si je puis ainsi m'exprimer, car l'un de nous avait eu soin de mêler un puissant narcotique au vin qu'il avait emporté pour se rafraîchir. Il dormait, et n'eut garde de s'en vanter. Son sommeil dûment constaté, je fus délivré ainsi que mes hommes, et nous gagnâmes le précieux wagon, au risque de rouler sous les roues du convoi lancé à 80 à l'heure. Mais il faut bien risquer quelque chose, n'est-ce pas? Grâce à la petite scie électrique dont je m'étais pourvu, les scellés furent délicatement coupés en quelques instants. Alors nous entrâmes dans le wagon, et le train ayant ralenti entre deux stations, nous fîmes passer les caisses une à une au chauffeur. Celui-ci était de deux de nos amis, les arrima soigneusement dans les tendaires, sous le charbon. Simple, n'est-ce pas? Mais il fallait y penser. Après quoi je remis les scellés. Travail bien fait, je m'en flatte, bien qu'exécuté dans la nuit, debout sur le marchepied d'un train rapide. Notre besogne terminée, moi et mes hommes attendîmes le passage d'une courbe près de Vienne et sautâmes à terre. Nous prîmes un billet pour Lyon à la gare de Vienne et rejoignîmes nos camarades dans le dépôt des locomotives de Lyon, après nous être soigneusement revêtus de costumes de chauffeur et de mécanicien chez un ami. Par les soins de mon agence de Lyon, un wagon rempli de caisses vides, soi-disant pleines d'accumulateurs en plomb, attendait sur une voie de garage à quelques mètres du dépôt des locomotives. Les précieuses caisses y furent transportées sans encombre. Et au jour, le wagon était attelé à un train allant à Genève, où il arriva quelques heures plus tard. Moi, j'avais regagné Paris aussitôt dans mon automobile. J'y réglai quelques affaires de famille et me rendus ensuite à la gare de Lyon, où j'eus la douce joie d'assister à l'entrevue du chef de la Sûreté, de l'ingénieur en chef de la compagnie PLM et du régent de la Banque de France. J'appris ainsi que M. Dorbert promettait 500 000 francs à qui ferait pincer le voleur. 500 000 francs pour 12 millions, du petit 4%. Ils ne sont pas généreux à la Banque de France, cette avarice me répugna. J'entendis aussi le policier Isidore Louis hasarder des suppositions saugrenues sur le vol. Comme je n'avais rien à faire de ma soirée, je résolus d'employer mon temps avec cet honnête inspecteur. Il voulait à toute force partir pour Marseille. Je démolis l'autotaxi dans lequel il regagnait son logis, pendant qu'un de mes hommes, prévenu par téléphone, lui dévastait son logement et s'emparait ainsi de précieux documents contre lesquels il laissa au brave policier 1 000 francs, un calendrier représentant le Stromboli et un avis menaçant Isidore Loutre des pires châtiments s'il persistait à chercher l'auteur du vol du wagon. Pauvre homme, il n'en persista que davantage, et cela j'en étais sûr. C'était un bon moyen de détourner les soupçons. Après que je l'eus drogué au buffet de la gare de Lyon et fait manquer les deux seuls rapides de la soirée, le malheureux, absolument convaincu qu'il tenait la bonne piste, partit pour Marseille à 11 heures du soir. Je le vis monter dans le train et regagner mon auto qui m'amena à Genève le jour suivant. J'y surveillais le déchargement des pseudo-caisses d'accumulateurs. Elles furent transportées dans ma villa et de là renvoyées vides à M. le chef de la Sûreté. Je n'ajouterai rien à ce petit récit, une seule chose pourtant, j'ai dit que les caisses avaient été transportées à Genève. Je ne suis pas absolument certain que ce soit dans cette ville. On me comprendra, le secret professionnel. J'ai fini. Les 12 millions sont en sûreté. Le mécanicien et le chauffeur du train auquel fut attelé le wagon 153-777 sont partis en villégiature depuis hier matin, 12 heures avant que ne fût envoyé ce récit à l'Argus. Ce serait du temps perdu que de les chercher. L'on peut en croire un homme qui s'y connaît. Je termine. Par mes soins, 10 000 francs ont été déposés au comptoir national de banque. Ils seront répartis entre le chauffeur du taxi que mon auto heurta, le policier Loutre à qui j'occasionnais de multiples émotions et une nuit sans sommeil, et le malheureux chef de train qui, par mes soins, dormit plus de 3/4 d'heure. J'ai bien fini. Je compte maintenant me reposer quelques jours sur la Côte d'Azur, car je crains fort avoir pris un rhume sur le marchepied du wagon 153-777. Il faut se soigner. Baron César Stromboli. P.S. Le portrait que publie l'Argus, bien que lui ayant été communiqué par moi-même, ne reproduit qu'imparfaitement mes traits. la police aurait tort de vouloir s'en servir pour me chercher.
Aussitôt l'apparition de cet article, le Télégraphe marcha. Des enquêtes furent ordonnées à Lyon, à Marseille, à Valence, à Vienne, à Genève. Le baron Stromboli avait dit vrai. Elles furent vaines. Nulle trace du wagon soi-disant expédié de Lyon avec des accumulateurs.
Le baron avait dû certainement changer les noms des villes.
Surtout le PLM, des recherches furent faites, elles n'aboutirent pas. Seul un fait demeura acquis. Le mécanicien, le chauffeur du train remorquant le wagon 153-777, avait disparu. On ne les remit jamais. C'étaient deux jeunes gens, excellemment notés et promis au plus haut avenir. Quant au chef de train, il a toujours nié avoir dormi, fût-ce quelques secondes pendant ce voyage, et comme nul ne pouvait le contredire, il fallut bien le croire.
Ainsi s'achève, lors du Mongolia, une aventure du baron Stromboli, par José Moselli.